Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le manuel de recherche en sciences sociales. Associé à Raymond Kivy et selon les éditions à Luc Van Campenhout puis Jacques Marquet. Est un ouvrage méthodologique destiné à guider la conception et la conduite d'une enquête en sciences sociales. Les données bibliographiques disponibles renvoient à plusieurs éditions et à une évolution de l'équipe éditoriale. Mais le projet demeure stable, rendre praticable une démarche de recherche rigoureuse pour des étudiants, des débutants et des praticiens. Le livre ne propose pas une théorie particulière de la société. Il organise plutôt le passage d'une intuition ou d'un sujet vaste vers un dispositif capable de produire et d'interpréter des informations pertinentes. Sa structure est connue pour présenter une succession d'étapes, de la question de départ à la conclusion, en articulant réflexion conceptuelle, choix méthodologique, observation et analyse. Les éditions récentes signalent en outre des exemples de recherches qualitatives et quantitatives qui suivent ce cheminement. L'ambition centrale est donc d'éviter que la collecte de données ne précède la construction du problème de recherche. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, transformer un thème initial en question de départ investigable. Le point de départ du manuel est une difficulté fréquente à un thème tel que les inégalités. Les pratiques culturelles ou le travail ne constituent pas encore un objet de recherche. Pour être utile, la question initiale doit circonscrire ce que l'on cherche à comprendre. Désigner une population ou un contexte pertinent est resté susceptible d'être examiné à partir d'informations accessibles. Cette exigence protège contre deux impasses opposées. Une question trop large entraîne une documentation dispersée et des observations sans unité. Une question formulée de manière trop fermée risque au contraire de dicter sa réponse avant l'enquête. Le manuel traite donc la question de départ comme un instrument de discipline intellectuelle plutôt que comme une simple formalité rédactionnelle. Elle sert à sélectionner les lectures, à orienter les entretiens ou les données à recueillir et à fixer les limites raisonnables du projet. Son intérêt pédagogique réside dans le fait qu'elle rend visibles les arbitrages souvent implicites entre curiosité, faisabilité et précision. Le chercheur apprend ainsi à distinguer un sujet socialement important d'une interrogation scientifiquement construite. Cette première opération conditionne toutes les suivantes, car ni les concepts, ni les indicateurs, ni la méthode ne peuvent être choisis de façon cohérente tant que le problème reste indéterminé. Deuxièmement, faire de l'exploration un travail de clarification plutôt qu'une accumulation de sources après la formulation initiale, le manuel accorde une place décisive à l'exploration. Celle-ci comprend notamment la consultation critique de travaux existants et le recours à des échanges ou observations exploratoires selon le projet. Il ne s'agit pas de résumer tout ce qui a été publié ni de collecter immédiatement des témoignages destinés à confirmer une idée. L'exploration permet de repérer les définitions concurrentes d'un phénomène, les résultats déjà établis, les désaccords entre auteurs et les aspects insuffisamment éclairés. Elle aide également à vérifier que les termes employés dans la question ne recouvrent pas des réalités différentes selon les groupes ou les disciplines. Cette étape a une fonction de correction. Les premières intuitions du chercheur sont confrontées à des connaissances, à des terrains et à des acteurs qui peuvent les compliquer. Le manuel souligne ainsi implicitement que l'enquête ne commence pas avec un questionnaire. Un entretien exploratoire peut révéler que les catégories prévues ne correspondent pas à l'expérience des personnes, tandis qu'une lecture méthodique peut montrer que le problème a déjà été traité sous un autre angle. L'exploration produit donc un recentrage raisonné. Elle prépare une problématique plus solide, car celle-ci ne repose plus seulement sur la perception spontanée du sujet, mais sur une compréhension informée de ses enjeux empiriques et théoriques. Troisièmement, construire une problématique et un modèle d'analyse explicite, le manuel distingue utilement la problématique de la simple présentation du sujet. Construire une problématique consiste à situer la recherche dans un ensemble de perspectives possibles et à préciser l'angle à partir duquel le phénomène sera interrogé. Cette étape oblige à choisir des concepts dont la fonction est claire et à expliciter les relations que l'on suppose pertinentes entre eux. Le modèle d'analyse prolonge ce travail en traduisant les notions retenues en dimensions observables. Il forme le pont entre le langage théorique et le matériau empirique. Sans ce pont, des notions comme intégration, participation, pouvoir ou mobilité peuvent être employées de manière intuitive, puis mesurées de façon arbitraire. La démarche proposée conduit au contraire à demander ce que recouvre concrètement chaque concept. Quelles manifestations peuvent l'indiquer et quelles relations doivent être examinées ? Cette explicitation ne signifie pas que la recherche doive réduire toute réalité sociale à des variables simples. Dans une démarche qualitative, elle aide aussi à organiser l'attention portée aux significations, aux pratiques et aux contextes. L'apport distinctif du manuel est d'insister sur la continuité entre questions, cadres conceptuels et observations. Une hypothèse ou une orientation analytique n'a de valeur que si elle peut guider un recueil d'informations. Et les informations recueillies ne peuvent répondre aux problèmes que si leur statut analytique a été défini avant leur interprétation. Quatrièmement, choisir l'observation et les techniques selon la question, non selon l'habitude. L'observation désigne dans le parcours proposé le moment où la recherche organise effectivement la production ou la sélection des informations. Le manuel invite à choisir les techniques en fonction de l'objet construit document, données existantes, questionnaire, entretien, observation de situation ou combinaison de plusieurs sources. Cette logique évite de présenter les méthodes qualitatives et quantitatives comme des identités rivales. Elles répondent à des besoins différents et peuvent être articulées lorsque la question l'exige. Une enquête par questionnaire peut être appropriée pour comparer des distributions ou des associations sur un ensemble défini, à condition que les catégories soient compréhensibles et que la population enquêtée soit justifiée. Des entretiens peuvent être plus adaptés lorsqu'il faut comprendre des parcours, des significations ou des modes de raisonnement, mais leur richesse ne dispense pas d'un protocole de sélection et de conduite. L'ouvrage met ainsi l'accent sur les conditions de validité de l'observation définition de la population ou du corpus, opérationnalisation des concepts, cohérence des instruments et prise en compte des contraintes de terrain. Les exemples signalés dans les éditions récentes, l'un qualitatif et l'autre quantitatif, renforcent cette idée que la méthode est un ensemble de décisions liées. Le choix technique ne doit jamais être décoratif ou dicté par la disponibilité d'un outil. Il doit permettre de répondre de manière proportionnée à la question formulée. En dernier lieu, analyser les informations et conclure sans confondre résultats et certitudes. La dernière partie de la démarche porte sur l'analyse des informations et la conclusion. Le manuel refuse l'idée selon laquelle les données parleraient d'elles-mêmes. Elles deviennent pertinentes grâce à des opérations de classement, de comparaison, de mise en relation et d'interprétation rapportées au modèle d'analyse. Dans une enquête quantitative, cela implique notamment de lire les régularités avec prudence, en évitant de transformer une association observée en causalité automatique. Dans une enquête qualitative, cela suppose de dégager des logiques ou des contrastes à partir du matériau sans isoler des extraits de leur contexte. Le retour vers la problématique est essentiel, l'analyse N n'est pas une étape autonome de présentation de tableaux ou de verbatims, mais l'examen argumenté de ce que les informations permettent réellement d'établir. La conclusion a alors plusieurs fonctions. Elle répond à la question de départ dans les limites du dispositif, rappelle les principaux enseignements, signale les limites du travail et ouvre éventuellement de nouvelles interrogations. Cette place donnée aux limites est méthodologiquement importante. Elle ne diminue pas la valeur de la recherche, mais précise sa portée, ses conditions de validité et les points qui demanderaient une autre enquête. En faisant de la conclusion un bilan raisonné plutôt qu'une confirmation attendue, le manuel associe rigueur scientifique et modestie interprétative. En conclusion, ce manuel s'adresse en priorité aux étudiants qui préparent un mémoire, un travail de fin d'études ou une première enquête. Mais il peut aussi servir aux professionnels et aux associations qui doivent transformer une préoccupation de terrain en investigation structurée. Son bénéfice pratique est de fournir une architecture complète, délimiter une question, explorer les connaissances disponibles, construire un cadre d'analyse, choisir une observation adaptée, interpréter les informations et formuler une conclusion proportionnée. Cette continuité réduit les incohérences fréquentes entre problématiques, outils de recueil et résultats annoncés. Son bénéfice intellectuel est tout aussi important, il apprend à considérer les méthodes non comme des recettes techniques, mais comme des choix justifiés par un problème précis et par des concepts explicités. Comparé à des guides centrés exclusivement sur le questionnaire, l'entretien ou le traitement statistique, l'ouvrage se distingue par sa vision d'ensemble de la démarche. Il ne sépare pas artificiellement théorie et terrain, ni qualitatif et quantitatif. Les éditions récentes, qui proposent des exemples concrets associés à ces deux orientations, semblent renforcer cette vocation pédagogique. Le lecteur doit néanmoins l'utiliser comme un cadre de raisonnement et le compléter, lorsque nécessaire, par des ouvrages spécialisés sur l'échantillonnage, les entretiens, l'analyse statistique ou l'éthique de l'enquête. Sa force durable réside précisément dans cette fonction de charnière, il aide à comprendre pourquoi chaque étape existe, comment elle dépend des précédentes et à quelles conditions une recherche sociale peut produire des résultats défendables. Si vous souhaitez soutenir Raymond Quivy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.